La première, 14h30, 16h, entrée sans frapper.
Comme annoncé, notre invitée aujourd'hui est Amélie Nothon. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors vous êtes en studio depuis Paris, ici dans ce studio à Bruxelles. Eh bien je suis entouré, et même bien entouré, vous l'avez peut-être entendu. Donc on va peut-être un peu tous vous poser des questions, donc ne soyez pas étonnés. Il y a plusieurs voix, il y a celle de Marie Charette, oui. Celle de Gorian Delpature.
Bonjour.
Et de Jacques
Bonjour.
De Pierrepont. Voilà, on est tous là, on a tous lu votre livre, parce que vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous présenter ce nouveau roman, Frappe-toi le cœur, paru aux éditions Albin Michel. Alors je vais me lancer dans le pitch, si vous voulez. Marie, elle est jeune et jolie, elle a 19 ans et ne laisse personne indifférent. Elle rencontre Olivier et tombe assez vite enceinte. Leur petite fille se prénomme Diane. C'est un beau bébé. C'est même une enfant magnifique, divine même, on peut le dire. Encore plus que Marie et ça. Marie, eh bien, ne va pas le supporter. Et cette maman-là devient jalouse de sa propre fille. Et elle décide de ne lui manifester aucune tendresse, aucun amour. Et Diane, alors, elle va grandir avec ça, tant bien que mal. Elle va se forger une carapace assez épaisse. Et souvent, on va lui reprocher sa froideur. Je vais m'arrêter là, dans l'explication de l'histoire, parce qu'il y a encore plein de choses, plein de personnages, que Diane va rencontrer, et on va se rendre compte effectivement que Diane, elle vit comme ça, entourée de gens qui sont atteints de cette terrible maladie qu'est la jalousie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce pitch, ce résumé de votre livre ?
Complètement.
C'est bien, nous avons lu le même. C'est déjà un bon point de départ. Ma première question est toute simple. Oserais-je dire, Amélie Nothon, est-ce que vous êtes jalouse ? Est-ce que c'est un sentiment, une maladie que vous connaissez, vous, je ne vais pas dire au quotidien, mais voilà. Est-ce que vous êtes jalouse, Amélie Nothon ?
La jalousie est un sentiment humain. Toute personne humaine doit reconnaître qu'elle a été jalouse au moins une heure dans sa vie. Donc oui, il m'est arrivé d'être jalouse. Je ne pense vraiment pas être une grande jalouse. Mais j'ai fait l'expérience de la jalousie juste assez pour savoir que c'était vraiment une torture et qu'il fallait vraiment sortir de là. Donc je dirais que maintenant, pour moi, la jalousie, c'est une phase. Il est important que cela demeure une phase, c'est-à-dire un état dont on peut sortir et dont il importe de sortir.
Mais alors, c'est dramatique pour qui ? Pour la personne qui est jalouse ou pour l'environnement ? Parce qu'ici, on se rend compte...
Tout le monde.
Voilà.
Pour tout le monde. C'est ça qui est affreux, c'est qu'il n'y a pas de profit à la jalousie. Le jaloux souffre, les victimes de la jalousie souffrent. Très rares sont les curieux pervers, dont Marie fait certainement partie, qui sont capables de jouir en situation de jalousie passive. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de gens, mais elle est très minoritaire, qui jouissent quand ils sont jalousés. J'ai découvert l'existence de ces gens très tard. Ce sont des gens pour qui le comble du plaisir, c'est de sentir qu'on les jalouse.
Oui.
Mais ces gens-là sont rares. Et il faut bien le dire, dans l'immense majorité des cas, la jalousie ne produit que de la souffrance pour tout le monde.
Bien sûr. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est Marie, au début, elle est comme ça. À 19 ans, elle est belle comme un cœur. Tout le monde l'envie, tout le monde la jalouse, et elle profite de ça. Et puis alors, comme je le disais, oui, elle en profite. Alors c'est dur de dire ça, mais c'est comme ça.
Mais oui, parce qu'elle a un érotisme de la jalousie. Mais dès qu'elle devient une jalouse active, c'est-à-dire dès qu'elle va avoir l'impression de ne plus occuper le rôle central de sa vie, parce que le rôle central va lui donner l'impression d'être occupée par sa fille, alors elle devient une jalouse active et elle connaîtra la pire jalousie du monde, qui n'est pas si rare que ça. Elle va jalouser son propre enfant. Il y a un énorme tabou pour nier que beaucoup de mères jalousent leur enfant. Je ne dis pas que c'est si fréquent que ça, mais c'est plus fréquent qu'on ne le prétend.
Voilà, Amélie, notre Marie à nous a une question pour vous.
Oui, justement, là, on est dans le cas donc d'une jalousie d'une maman envers son enfant, sa fille. Donc, vous abordez aussi cette thématique-là de ce rapport mère-fille. Il y a souvent, je pense, deux situations différentes où une projection de la maman qui veut que sa fille réussisse mieux qu'elle et qui vit un petit peu par procuration, ou justement cette mère jalouse qui ne veut pas que sa fille, finalement, la dépasse. Est-ce que vous, Amélie Nothon, vous vous êtes inspirée de votre propre rapport à votre maman? Pas du tout.
Pas du tout. Ce n'est heureusement pas du tout une expérience personnelle. J'ai toujours une maman merveilleuse, très aimante et pas jalouse du tout. Mais j'avais 10 ans la première fois que j'ai rencontré une petite fille qui était dans ce cas-là, c'est-à-dire dans la situation d'être jalousée par sa mère. Et par la suite, j'ai rencontré un très grand nombre de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes qui vivaient cette situation. et qui ne s'en remettait pas. C'est terrible parce que les enfants qui vivent cette situation avec leur mère sont des enfants qui n'ont pas le droit d'être enfants. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps, ils ont tout le temps tellement peur d'éveiller la jalousie de leur mère qu'ils sont tout le temps en train d'analyser la dangerosité de ce qui se passe, de s'interdire le plaisir, de s'interdire tout ce qui pourrait rendre la mère jalouse.
Et ça, on le sent très bien à travers votre roman. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre roman, c'est que vous ne cherchez pas à accuser qui que ce soit. Il n'y a pas de coupable, en fait, dans cette...
Mais non, il y a pas de... non, parce qu'il faut bien se rappeler, dans une situation de jalousie, la personne qui souffre le plus, c'est le jaloux. Alors, on peut dire autant qu'on veut que le jaloux est le coupable, mais c'est quand même un coupable qui n'a pas choisi de l'être. On ne peut pas choisir un état pareil. La souffrance est d'abord pour le jaloux. Je pense qu'un jaloux est une personne qui n'a pas réglé une question que nous nous posons tous quand nous avons 3 ans. Quand nous avons 3 ans, nous nous posons tous la question de savoir. Alors, si nous parvenons à régler cette question, soit que nous ayons posé la question à notre mère et que notre mère nous ait donné la bonne réponse, à savoir « mais mon chéri, ça n'a aucun sens de préférer quelqu'un, il n'existe que des amours différents », soit que nous l'ayons réglé par des moyens personnels en voyant qu'on peut aimer aussi les personnes qui suscitent notre jalousie. Si on n'a pas réglé la problématique de la jalousie quand on avait 3 ans, on est appelé à devenir un grand jaloux, et un grand jaloux est d'abord une personne qui souffre.
Oui. Et dans votre roman, Diane, donc cette petite fille qui est jalousée par sa mère, moi ce que j'aime bien, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est assez positive en fait. Elle se rend compte très vite que sa maman ne l'aime pas parce qu'il y a un problème, et ce problème c'est la jalousie. Elle n'arrive pas encore à mettre un mot, un sentiment sur ce problème. Elle comprend qu'il y a un problème, Diane comprend que sa maman a un souci, elle lui pardonne, elle lui trouve des excuses en fait. Et elle reste très positive, Diane.
Elle est très positive parce qu'elle a un instinct très fréquent chez les enfants. Elle veut guérir sa mère. Elle croit qu'elle a le pouvoir de guérir sa mère. Et elle essaie désespérément jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, c'est là que naît le troisième enfant de Marie, la fameuse petite sœur. Et quand elle va voir sa mère délirée d'amour pour sa petite sœur, là, Diane va tout à coup décider que sa mère va trop loin et que vraiment, elle est indécrottable et qu'il n'y a rien à faire. Mais jusqu'à ce moment-là, elle se croit le pouvoir de guérir sa mère.
Oui. Et là encore, elle lui trouve une excuse puisqu'elle lui dit, bon là je ne divulgâche rien comme disent nos amis du Canada, puisqu'elle lui dit voilà, il y a un manque de tact chez ma mère. Voilà, donc elle est persuadée, Diane reste persuadée que sa mère l'aime puisqu'il y a eu ce petit moment, où elle l'a pris enfin dans ses bras. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu quand même un geste d'amour, il y en a eu un.
Mais la jalousie n'est pas l'absence d'amour. La jalousie est une maladie de l'amour. La jalousie est comme une espèce de code secret qui vient brouiller le langage. Mais il ne faut surtout pas s'imaginer qu'une personne jalouse est une personne qui n'éprouve pas d'amour. Elle éprouve de l'amour, mais elle a une très curieuse façon de l'exprimer.
14h30, 16h. Entrez sans frapper sur la première.
Amélie Nothomb est toujours notre invitée pour évoquer ensemble la sortie de son livre, tout simplement intitulé « Frappe-toi le cœur », paru aux éditions Albin Michel, un livre qui parle de jalousie. Et je le disais en introduction, psychiatres et psychologues sont formels, la jalousie touche aussi bien les hommes que les femmes. Et pourtant, dans cette histoire, Amélie, c'est une jalousie de femme. Et j'allais dire, peut-être pire encore, la jalousie entre une mère et sa fille. Est-ce que c'est... est-ce que c'est plus pire ou moins pire qu'une jalousie, je veux dire, amoureuse, un homme, une femme, un couple ?
C'est infiniment pire parce que c'est l'inverse de la normale. Qu'un enfant jalouse sa mère, c'est affreux, mais ça va quand même dans l'ordre de la nature. Ouais. C'est-à-dire que la mère est grande, elle est belle, elle est grandiose, l'enfant, il est petit, il est gauche, il a tout à apprendre. Donc s'il jalouse sa mère, c'est moche, mais on le comprend. Tandis que l'inverse, c'est épouvantable, et pourtant c'est très fréquent. Donc c'était un projet très cruel chez moi. Ça faisait longtemps que je voulais parler de la jalousie, parce que la jalousie est une chose qui me fascine. Et tant qu'à explorer la jalousie, je voulais explorer une jalousie particulièrement contre nature, mais qui existe bien sûr, la jalousie d'une mère pour son enfant.
Jacques de Pierrepoint, une question pour vous.
Dans cette histoire, il y a la maman, il y a la fille, et puis évidemment, il y a le papa. Et le papa, et c'est peut-être assez fréquent, a une attitude assez passive, même pas passive. On dirait qu'il ne se rend pas compte de tout ce qui se passe parce que simplement, lui, il est bêtement amoureux, comme un mâle peut souvent l'être. Mm-hmm. Et donc, et on a un peu l'impression qu'il ne va pas aller gratter au-delà de la surface des choses.
Oui, il ne comprend pas. Il est en effet fou amoureux de sa femme, il adore sa fille, et il ne voit littéralement pas où est le problème. Lui, par contre, est exempt de toute forme de jalousie, et c'est justement, c'est comme une langue qui lui échappe complètement. Il ne voit pas où est le problème. Par ailleurs, je pense qu'il y a un phénomène générationnel qui se greffe dessus. Diane naît en 1972, on peut dire dans l'ancien monde, et moi, quand j'étais petite, mon père, qui est toujours le plus merveilleux des pères, ben, il était un père à l'ancienne, c'est-à-dire c'est un personnage qui reste extérieur à la relation entre la mère et l'enfant, un personnage secondaire. Le père, il jouait plus un rôle social et à la maison, c'était la mère qui était le personnage le plus important. Donc, Diane connaît cette situation-là. À la maison, sa mère est toute puissante et le père reste plutôt extérieur par rapport aux événements.
Gorian.
Oui, Amélie Nothomb, mais j'ai une question aussi pour vous. On parle beaucoup de la perversité, de la jalousie sous toutes ses formes dans votre roman, mais il y a aussi un autre thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est la perversité du milieu universitaire, de ces thésards,
oui,
de ces gens qui font des doctorats. Et mais j'ai envie que vous vous exprimiez un peu là-dessus. Vous n'aimez pas l'université, Amélie Nothomb ?
Oh, c'est nothing personal, comme on dit. L'université, je l'ai quittée quand j'avais 21 ans, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais pour ce que j'ai pu en voir, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les gens qui, fascinés par l'université, y restent plus longtemps que les 4 ou 5 années pendant lesquelles il est intéressant d'être à l'université, se heurtent forcément, tôt ou tard, à la captation d'un professeur. C'est-à-dire que les professeurs qui voient arriver un étudiant brillant qui a beaucoup de choses à leur apporter ne vont certainement pas se gêner. Et dans la recherche, en effet, c'est comme ça que ça se passe. Les professeurs pillent leurs chercheurs qui ont l'âge d'être leurs enfants. Et c'est tout à fait normal. Et personne ne les en remercie. C'est un phénomène qui n'est pas reconnu. Mais interrogez tous les universitaires qui fréquentent l'université au-delà de leurs 24 ans, c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est ça aussi qui est peut-être le plus troublant, parce que vous parlez de jalousie dans le milieu parental, donc parents-enfants, ce qui est peut-être la pire forme de jalousie. Et puis cette jalousie intellectuelle dans le milieu le plus intellectuel du monde, en tout cas ce qui est censé être l'université, ça rend les choses encore pires.
Ça rend les choses pires, parce que c'est vrai que quand on arrive à l'université, on se dit qu'on va rencontrer les gens les plus intelligents qu'on va rencontrer de sa vie. Et par ailleurs, c'est vrai, on y rencontre des gens extraordinairement intelligents. Mais l'erreur est de s'imaginer que ces gens, sous prétexte qu'ils sont formidablement intelligents, sont exempts de bassesse et sont nobles. Ils ne le sont absolument pas. Et au contraire, ils vont se sentir d'autant plus autorisés à vous dilapider qu'ils savent qu'ils le font au nom de la plus haute intelligence.
Alors, on l'a dit, hein, il y a de la manipulation dans ces livres, il y a des mensonges, il y a des envies, il y a de la jalousie, bien entendu. Et ce livre est surtout décrit comme un conte cruel. Pour vous, raconter cette histoire-là, cette histoire de jalousie, qu'elle soit familiale ou universitaire, on peut le dire comme ça, pourquoi l'avoir racontée sous forme de conte ? C'est un genre que vous aimez bien, pour lequel vous essayez déjà depuis quelques romans déjà, mais en quoi le conte vous permet de mieux raconter, de mieux sublimer cette histoire ?
Le conte me plaît beaucoup parce qu'il permet une très grande économie de moyens. Quand on écrit un conte, on n'est pas forcé de raconter par le menu tout le détail sociologique de l'affaire. Tout le monde se reconnaît dans le conte, peu importe de connaître exactement le milieu social des gens à qui cette histoire arrive. Dans les contes, quand on nous raconte les contes de Perrault, c'est encore plus radical. Tout le monde est fils de roi ou fils de reine et tout le monde s'y reconnaît parce que quelque part, on considère tous nos parents comme le roi et la reine. Mmh. Bon, chez moi, ils sont pas forcément roi et reine, mais c'est très simple. On ne sait pas exactement ce que c'est que cette famille, mais on comprend tout de suite. J'aime la fulgurance du conte. J'aime qu'avec un conte, on puisse faire de plus en plus court et que ça parle à tout le monde. Il n'y a pas plus polyglotte que le conte.
Simple, mais pas simpliste. Alors, je sais que c'est une expression que j'utilise beaucoup, mais c'est important parce qu'ici, vous dites, voilà, vous allez droit au but. Hein, et le style utilisé est quand même assez, je veux dire, direct. Vous allez droit au but, c'est assez épuré. C'est quand même une langue que vous travaillez sans cesse.
C'est très travaillé. Aller vers l'épure demande un très grand effort. Ça fait maintenant la moitié de ma vie, et même bien plus, parce que la moitié de ma vie, c'est la date de ma première publication, mais j'écris depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ça fait donc bien longtemps, puisque je suis en train d'écrire mon 90e manuscrit, ça fait longtemps que j'écris et donc que j'apprends à écrire. Et je vois bien que ma direction, mon effort, c'est d'aller vers de plus en plus de simplicité, me passer de tout ce qui est superflu, parce que Stephen King le dit très bien, les détails, ça peut terriblement brouiller la compréhension. Bien sûr, il ne faut pas se passer de tous les détails, le diable est dans les détails et le diable est intéressant, mais certains détails vraiment brouillent la compréhension. Donc si on peut, avec le temps, diagnostiquer quels sont les détails qui vont simplement brouiller la compréhension, eh bien, il faut tout simplement les éliminer.
Et là, Gorian opine du chef parce que c'est un grand spécialiste de Stephen King. Sauf que j'ai envie de vous dire, voilà, vous épurez et vous faites, voilà, votre roman fait 169 pages, mais chez Stephen King, c'est quand même des briques de 800-900 pages.
C'est souvent plus long, et Stephen King n'utiliserait pas des mots aussi châtiés et recherchés que Caroline Nothomb. Je ne les ai pas tous notés, mais j'ai beaucoup apprécié votre utilisation de « vous soyez » à la place de « vous voyez ». Ça, c'est quand même votre petit péché mignon, hein, placer de ci, de là, des jolis mots perdus dans des phrases d'apparence normale. Vous aimez ça, hein, jouer avec ces mots rares.
Écoutez, quand j'avais 13 ans, je voulais être Erasme, ça n'a pas marché, je vous le dis tout de suite, et j'ai lu en entier le dictionnaire « debout ». Il en est resté quelque chose. Bon, je ne fais plus tout debout, mais le dictionnaire a laissé une trace